Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Place aux Jeunes, un podcast qui donne la parole aux jeunes sur divers sujets sociétaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Léane avec moi. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation, Léane.
Ouais, merci à l'invitation.
Alors d'abord, si tu pouvais te présenter en quelques mots, donner ton âge, les études que tu poursuis et en quelle année tu es.
Oui, donc je m'appelle Léane Eliez, j'ai 22 ans et je suis en quatrième année de médecine.
Ok. Pourquoi te tourner vers des études de médecine ?
C'est à vrai dire un intérêt que j'ai développé assez tôt, parce que j'ai toujours été intéressée par soigner les gens. Quand ma sœur avait des bobos, j'avais envie de lui mettre un pansement, des choses comme ça. Et puis aussi, j'ai développé un intérêt pour juste comprendre comment le corps humain fonctionnait. Parce que je trouvais, en tout cas, c'est mon avis personnel, à l'école, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et qu'on devrait peut-être en parler un peu plus, mais c'est un autre sujet. Et voilà, donc j'avais vraiment envie de comprendre comment le corps fonctionnait, pourquoi telle maladie arrivait à tel moment. Et surtout, vraiment d'avoir un impact positif sur la vie des gens, parce que je pense réellement que la santé est vraiment liée au bonheur des gens. Et donc, comme ça, je me dis, c'est une occasion de rendre les gens plus heureux via la santé.
Parfait. Et quelle spécialité tu vises en fin de tes études, du coup ?
Pour l'instant, j'aimerais faire gynéco-obstétrique, donc c'est vraiment orienté sur le soin des femmes, donc gynécologie, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est, et obstétrique, souvent, on connaît un peu moins, et donc c'est vraiment la prise en charge des femmes enceintes, donc tout ce qui est autour de la grossesse, s'il y a des césariennes à faire, des choses comme ça. Et voilà, mais après, je peux tout à fait changer d'avis encore, j'ai pas choisi vraiment la spécialité.
Et je crois que t'as le temps encore.
Oui.
Donc, tu as parlé du fait que la médecine, en fait, ça te procurait vraiment cette sensation d'être utile, de donner du bonheur aux gens, etc. Et là, dans tes études, qu'est-ce que tu aimes ?
Qu'est-ce que j'aime dans mes études ? Déjà, c'est très enrichissant intellectuellement parlant, parce que c'est après ça qu'on en prend vraiment beaucoup de choses. Mais c'est vraiment propre à nous de faire les liens entre les différentes choses qu'on apprend, parce qu'on peut soit apprendre bêtement, ça marche, hein. Mais ce que je trouve, ce n'est pas forcément le plus adapté. Et c'est sympa aussi de vraiment faire les liens entre les différents organes, toutes les conséquences qu'un petit défaut peut avoir sur l'ensemble du corps. Et voilà, et puis aussi, il y a tout l'aspect humain, forcément, d'interaction avec nos collègues étudiants et surtout avec les patients. Même si pour l'instant, je n'ai pas fait beaucoup de stages, mais tout ce qu'on fait, c'est vraiment... du dialogue beaucoup, puisqu'on n'est pas vraiment inclus pour l'instant dans la prise en charge, on ne prescrit pas ni rien, c'est comprendre pourquoi ils sont là, essayer de développer, voir eux comment ils se sentent réellement, et faire des choses comme ça, et c'est très très enrichissant.
Ok, donc aujourd'hui là on est en 2024, tu as environ 10 ans d'études, là tu m'as dit que c'était en quatrième année.
Oui.
Mais si on imagine que dans 10 ans, à la fin de tes études environ, de tes années d'études de médecine, qu'est-ce que tu penses que la médecine va devenir, l'évolution face par exemple aux nouvelles technologies, à la relation aussi client ? Relation patient, attention. Oui. Tout ça à la fin de tes études, donc dans 10 ans quand même.
Je pense qu'il y a deux aspects là-dessus vraiment à aborder. C'est en effet, comme tu as dit, les nouvelles technologies, tout ce qui est intelligence artificielle, etc., qui, je pense, pour l'instant, sont vraiment en voie de développement. Ce n'est pas extrêmement appliqué pour le moment. Et il y a aussi beaucoup l'aspect de la recherche qui se développe vraiment très rapidement, depuis les 10-15 dernières années, on a fait des progrès vraiment énormes. Par exemple, je pense au traitement contre le cancer. Encore dans les années 2000, c'était vraiment assez rudimentaire. C'était radiothérapie, chimiothérapie, et c'est tout. Et maintenant, on a développé énormément de traitements basés sur vraiment des thérapies ciblées, sur identifier quelle molécule est responsable de tel cancer et la cibler pour vraiment être spécifique et vraiment beaucoup plus efficace. Donc là-dessus, c'est vraiment... Ça se développe beaucoup dernièrement. Et concernant la relation avec le patient, on le voit déjà maintenant, ils ont essayé de faire beaucoup de réformes des études pour justement éviter les médecins qui n'ont pas de tact, etc., parce que ça a été beaucoup dénoncé dans les prises en charge des patients, et à juste titre, je le pense. Et donc oui, je pense qu'on va vraiment avoir besoin de faire des efforts sur la relation patient, sur être capable de faire preuve d'empathie, puisqu'on voit par exemple qu'il y a des études qui montrent que en téléconsultation, donc quand on ne voit pas le patient, ils ont fait des études entre soit le patient est reçu par un vrai médecin en face de lui, mais il ne sait pas, ou alors par une intelligence artificielle qui va lui répondre comme si c'était un médecin. Et à la suite de ça, ils devaient donner donc leur ressenti sur est-ce que la personne en face d'eux, donc soit le médecin, soit l'intelligence artificielle, avait fait preuve d'empathie, avait cherché à comprendre réellement ses soucis, est-ce qu'ils avaient répondu à leurs attentes. Et au final, ils ont prouvé que l'intelligence artificielle avait même montré plus d'empathie, par exemple, que le médecin généraliste humain. Donc c'est là qu'on voit qu'on a vraiment des progrès à faire là-dessus, parce qu'on pourrait se dire quand même que l'humain est censé être plus empathique envers les autres humains que des... pas des robots, mais bon, voilà, des choses qui ne sont pas humaines, quoi. Voilà. Donc bon, ça va nous pousser aussi, je pense, à donner le meilleur de nous-mêmes, à nous améliorer, puisque je pense qu'il y a une marge de manœuvre assez importante. Oui,
ouais, ça marche. Moi, j'ai donc posé cette même question là, à Google. Quel avenir pour la médecine de demain? Et voici sa réponse. Donc, je cite. La médecine du futur verra apparaître de nouveaux domaines d'études scientifiques, de nouvelles applications, de nouveaux usages de technologies numériques, tu en as parlé, en santé, de l'intelligence artificielle, des algorithmes, mais également en profonde réorganisation du système, et ça c'est aussi important, du système médical depuis de santé, plaçant le patient au cœur du système. Toi, dans le système médical depuis déjà quelques années, et avec plusieurs de tes expériences sur le terrain, avec tes stages en l'occurrence, ou même aussi parce que tu as dit qu'il y avait des changements dans l'apprentissage de tes cours, est-ce que tu vois que la médecine prend un nouveau virage réellement ou pas du tout?
Je pense qu'il y a une volonté qui est là. Après, dans les faits, je pense qu'il faudrait surtout le demander aux patients justement qui sont, je pense, les premiers évaluateurs de ce changement-là. Après, concernant la mentalité déjà de tous les étudiants, par exemple de mon année, je sais qu'on est vraiment très concernés par justement l'aspect beaucoup plus humain de la médecine et moins technique. Parce que pour moi, vraiment, ce qui fait la différence entre un bon médecin et un très bon médecin, c'est pas la technique. Hein. Soit on l'apprend, on la connaît tous. C'est vraiment à quel point on est capable de montrer de l'empathie envers son patient et de lui répondre à ses attentes. Et donc je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence et qui n'est vraiment pas toujours acquise. Voilà, et ensuite oui, replacer le patient au milieu, enfin au centre de la prise en charge, ça c'est très actuel aussi. On a eu pas mal de cours là-dessus qui disaient que dans les années 90, même 2000, c'était une relation très descendante. Donc c'était le médecin qui prenait une décision, qui expliquait pas forcément beaucoup ce qui se passait, puisqu'il disait que de toute façon le patient n'allait pas comprendre. Et maintenant on évolue beaucoup là-dessus. On nous dit beaucoup qu'il faut faire beaucoup d'éducation thérapeutique, donc expliquer réellement avec les mots. Simple quand même, donc c'est un vrai travail de notre côté aussi, puisqu'on sait très bien qu'on a un jargon un peu médical que c'est normal, peu de personnes comprennent. Donc c'est à nous aussi de faire les efforts. Et en effet, maintenant, c'est vraiment le patient qui décide. Au final, c'est lui le dernier décideur de sa prise en charge. Donc là-dessus, on évolue.
Et ça impacte même la recherche. Là, c'est juste une anecdote personnelle. J'ai regardé une vidéo sur YouTube sur les immunothérapies. Pas pour moi personnellement, mais vraiment pour... j'avais un exposé à faire là-dessus. Et c'est donc une médecin dans la recherche en oncologie, médecin
dermatologue.
Ouais. Dermatologue, merci Léa. Comme quoi les termes... et donc elle disait qu'effectivement, au niveau de la recherche, tout ce qui est les nouvelles technologies, ça aide vraiment pour développer les connaissances plus rapidement concernant des sujets comme les cancers où on sait pas beaucoup, on n'en sait pas beaucoup, pardon, mais il faut traiter les patients et avoir une prise en charge qui soit la plus efficace possible entre les bénéfices, risques de tel traitement, etc. Donc ça, c'est tout le métier de la recherche. Et donc, effectivement, ce qu'elle disait, c'est que l'usage du numérique, des nouvelles technologies, c'était impactant pour elle pour déterminer certains scanners, IRM, etc., pour pouvoir les lire plus rapidement, en tout cas les analyser plus rapidement et de manière plus pointilleuse, profondément. Mais également le fait que elle est chercheuse, mais aussi médecin à côté, hospitalière. Donc aussi de garder ce lien avec les patients, parce qu'aujourd'hui, on a l'information qui est beaucoup plus facile. Pour les patients, je parle. Donc pour eux de se renseigner. Voilà, quand on te dit que tu as un cancer du mélanome, bah, c'est facile pour eux de se renseigner. Et en fait, ce qu'elle disait, c'est qu'effectivement, la plus grande partie de son taf, c'est de parler avec le patient, d'écouter ce qu'il a à dire. Et effectivement, sur les renseignements qu'il a pu avoir, parce qu'il y a des fake news dans la médecine aussi, mais de pas de rassurer le patient concernant sa maladie, mais également échanger avec lui sur « Ah, t'as vu ça, ok, on va voir ensemble, on reprend ensemble les termes, on reprend ensemble le sujet pour évaluer au mieux. » Et comme tu l'as dit, le patient qui est décideur final puisse avoir tout conscientisé en lui et pas que les informations qu'il peut développer personnellement en son sein.
Oui, tout à fait.
Et à ton avis, comment l'intelligence artificielle va-t-elle changer la médecine ? Voilà, si je te mets une petite baguette magique, qu'est-ce que toi tu penses et qu'est-ce que tu voudrais, par exemple ?
Je voudrais beaucoup de choses. Après, c'est vrai que l'intelligence artificielle aujourd'hui est très très prometteuse et on se dit un peu, c'est le champ ouvert des possibles, on peut tout faire avec. Et je pense que c'est en partie vrai. Après, je ne suis absolument pas une professionnelle de l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi à voir que c'est des choses qui se développent avec des professionnels qui sont vraiment spécialisés et que ça prend du temps. Et ensuite, je sais ce qui est déjà en application, en tout cas pour le moment, et que je pense qu'il va être beaucoup amélioré d'ici les prochaines années et qu'il va vraiment entrer dans le parcours de soins automatisé. C'est par exemple surtout sur l'aide au diagnostic sur les dépistages organisés, par exemple sur le cancer du sein. Parce que le cancer du sein, donc les dépistages, c'est, ils font des mammographies, donc c'est de la radio, quoi. Et ça a été prouvé qu'en effet, l'intelligence artificielle, quand une fois formée, donc avec du deep learning, tout ça, au final, elles sont plus efficaces pour reconnaître précocement les cancers du sein que les radiologues eux-mêmes. Et voire même de dépister à des stades qui ne sont pas encore cancéreux, et vraiment de dépister à des stades très 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 tôt. Donc ça, je pense réellement que l'intelligence artificielle sera et est déjà meilleure que l'humain, et ça me choque pas du tout, parce qu'en même temps, c'est de l'analyse d'image, donc voilà. Il y a aussi beaucoup sur l'analyse de données cliniques, parce qu'on recueille énormément de paramètres sur tous les patients. Et par exemple, que pour l'obésité, donc il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte dans l'obésité. Il y a l'alimentation, l'activité physique, la génétique, les facteurs environnementaux, sociaux, enfin énormément de choses. Donc c'est très très dur de réussir à tout prendre en compte. Et au final, on voit que si on arrive à tout regrouper, on donne un peu tout. Bon, je ne sais pas comment ils font exactement, mais ils donnent ça à l'intelligence artificielle et ils arrivent un peu à faire ressortir justement des facteurs qui sont vraiment prédisposant à développer de l'obésité qu'on n'aurait pas forcément réussi à trouver via les analyses, pré-IA. Donc ça, je pense que c'est les deux choses qui sont vraiment utilisées maintenant. Après, je pense qu'il y a aussi une grosse part, après ça, il faudra être prêt à lui laisser un peu la main, c'est sur tout ce qui est management à l'hôpital, par exemple, sur les prises de rendez-vous, les plannings de telle ou telle imagerie, des choses comme ça. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais qui, je pense, peuvent fluidifier énormément le fonctionnement de l'hôpital, et Dieu sait qu'on en a besoin, des choses comme ça. Et aussi sur la prise en charge personnalisée des patients, sur son c'est
son dossier.
Ouais, voilà, le dossier, tout ce qui est génétique, des choses comme ça, vraiment pour tout centraliser et que ça soit beaucoup plus rapide, plus efficace que si c'est l'humain qui le fait. Voilà.
Ou donc, globalement, si je résume, c'est pour l'intelligence artificielle, ouais. Mais toujours en utilisation pour un moyen pour pouvoir être plus performant, plus rapide, pour pouvoir avoir une efficacité dans la prise en charge du patient.
Oui. Et je pense qu'il y aura deux challenges quand même assez importants sur l'intelligence artificielle. C'est de 1... que ça, les médecins, en tout cas même les paramédicaux, ne se sentent pas remplacés et qu'on n'ait pas peur de perdre notre travail à cause de l'intelligence artificielle. Parce que je reste quand même convaincue qu'on a quand même besoin de personnes humaines à l'hôpital pour gérer les soins, etc. Donc je pense qu'il faut que ça reste en complément et qu'on n'ait pas l'impression de perdre le contrôle. Et aussi parce que c'est dur d'accepter justement de déléguer des choses à des gens qui sont, des composantes non humaines. Et on l'a bien vu, par exemple, avec le Covid, on va pas forcément m'aimer si je dis ça, mais pour déléguer les vaccinations Covid rien qu'aux pharmaciens, ça a été très compliqué. Alors pourtant, nous, ça nous fait gagner un temps dingue quand t'es médecin, t'as pas que ça à faire, quoi.
C'est vrai.
Et donc je me dis, c'est déjà, on a un peu galéré, ça a été dur d'accepter de donner d'autoriser les pharmaciens à vacciner. Enfin, voilà. Donc, je pense que ça prendra du temps. Après, les nouvelles générations, je pense, sont beaucoup plus ouvertes. Donc, c'est prometteur. Et le deuxième challenge pour moi, c'est que ça ne devienne pas une médecine des riches. Que, en gros, l'intelligence artificielle utilisée dans le soin soit disponible à tous. Parce qu'on peut voir, je sais qu'il y a beaucoup de films forcément qui sont sortis sur l'intelligence artificielle, où on voit que au final, ça fait un peu un monde où il y a les riches très privilégiés d'un côté qui ont accès à tout, qui sont en super bonne santé, qui vivent super vieux, parce qu'ils ont accès justement à des soins d'intelligence artificielle, des choses comme ça, et qu'au final, un peu, il y a tout le reste du monde qui vit dans la misère, etc., et ils n'ont pas accès à ça, et donc ça fait des inégalités très importantes. Donc je pense qu'il y a de ça aussi à prendre en compte. Et parce que ça peut être des dérives au final qui arrivent très très vite. Hein. On le voit déjà, hein, qu'entre l'Europe et l'Afrique, par exemple, il y a déjà des différences de prise en charge médicale qui sont énormes. Et donc si en plus on développe l'intelligence artificielle, qui je pense est quand même quelque chose de très privilégié, enfin, je pense que, bon, par exemple, c'est un peu triste à dire, mais en Afrique ou en Asie du Sud-Est, je ne suis pas sûre qu'ils développent ça beaucoup, en tout cas pour la médecine. Donc voilà, rendre ça accessible à tous, ça va être aussi un challenge important.
C'est noté. Est-ce que t'as un mot de la fin concernant le sujet de l'intelligence artificielle ou...
Que c'est prometteur, voilà. Donc okay, à travailler, donc
avoir,
et à développer.
C'est ça, à voir pour les années à venir. Deuxième sujet, et ça va être le dernier, je crois. Les déserts médicaux.
Ouais.
Un gros sujet. Pareil, j'ai demandé à... Alors, je vais déjà introduire le sujet des déserts médicaux. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce dont on va aborder. C'est le manque d'attractivité des zones rurales par la médecine en général et la baisse d'activité des hôpitaux et l'absence de mesures incitatives. Ça, ce sont les principales raisons qui expliquent pourquoi les jeunes médecins manquent à l'appel sur le marché. Qu'en penses-tu?
C'est véridique, hein. Clairement, il y a des déserts médicaux un peu partout. Qu'on voit, hein, que la zone de Saint-Malo, et qu'on ne trouve pas forcément, c'est pas paumé, quoi. C'est considéré comme un désert médical. Donc, oui. Après, je pense que le gros facteur limitant, c'est les capacités de formation des hôpitaux. Et qu'au final, nous, là, on est limité. Par exemple, à Rennes, je sais que le numerus apertus, ils appellent ça comme ça maintenant, c'est à peu près 200, un peu moins de 200 personnes, 200 personnes, 200 étudiants chaque année. Donc, forcément, c'est pas assez pour remplacer tous les postes manquants. Mais d'un côté, ils ne peuvent pas faire plus parce qu'après, quand on nous accueille, nous, dans les hôpitaux en tant que stagiaires, ils ne peuvent pas accueillir, je ne sais pas, par exemple, 10 stagiaires pour un médecin formateur. Ce n'est pas possible parce que nous, après, on va avoir une formation qui n'est pas optimale. Et donc après, ça va faire plus de médecins, mais des médecins moins bons. Donc, je ne suis pas sûre que ça soit non plus la solution. Donc, je pense que c'est ça le gros facteur limitant aujourd'hui. Après il y a plein de solutions bien sûr, mais...
Et justement, si on parle de ces solutions, si je te donnais le retour de la baguette magique, comment tu pourrais résoudre ce problème?
D'abord, je pense que on devrait donner plus d'importance aux médecins qui viennent de l'étranger. Là, par exemple, avec tous les enjeux politiques, ça a été très discuté dernièrement. Mais oui, pour moi, les médecins qui viennent de l'étranger, je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent du Maroc ou du reste de l'Europe, qui sont tout autant qualifiés et qui parfois peuvent être stigmatisés parce que, je sais pas, ils ont un accent ou ils ont un diplôme forcément qui n'est pas français. Mais après, il faut savoir que ces gens-là, pour pratiquer en France, ils doivent quand même faire des concours pour justement attester de leur niveau de langue française aussi.
C'est des équivalents.
Voilà, donc c'est des gens qui sont parfaitement qualifiés. Donc pour moi, il faut vraiment les prendre en compte, les valoriser, parce qu'on a besoin d'eux. Parce que comme je l'ai dit, on a une capacité de formation en France qui est quand même assez limitée pour la demande. Donc il y a ça. Et ensuite, en soi, on en a parlé avant, mais par exemple, déléguer des choses à l'intelligence artificielle, etc., pour nous laisser plus de temps aux médecins, ça peut aussi permettre de libérer plus de temps pour faire plus de soins et donc prendre en charge plus de patients au même moment. Donc voilà, ça peut être des solutions.
Ça marche. Mais voilà, donc tu l'as dit, il y a peu de médecins disponibles. Ta solution, je résume, ta solution, c'est pourquoi pas ouvrir à d'autres médecins étrangers qui sont aussi formés au diplôme et qui sont disponibles maintenant pour faire face à ces déserts médicaux. Mais maintenant, si on prend le problème à la source, on peut se demander pourquoi il y a peu de médecins en France finalement. Pourquoi on forme peu de médecins par rapport au nombre d'établissements médicaux qu'il y a, au nombre... voilà, je te laisse répondre.
Ouais, bah, je pense, comme je l'ai dit, les difficultés de... Enfin, qu'il n'y a pas assez de médecins justement pour former suffisamment déjà, qu'eux sont diplômés, ne sont pas suffisamment nombreux pour former derrière. Et aussi, parce que là je pense que c'est un peu un problème, une évolution générationnelle qui n'est pas liée à la médecine en particulier, mais je pense qu'aujourd'hui on a un peu tous un rapport, en tout cas les gens de la génération vingtaine, trentaine, on a un rapport à la vie professionnelle qui est un peu différent, je pense, que par exemple les générations de nos parents ou de nos grands-parents. Et ce qui peut être à la fois bénéfique, mais du coup, je pense qu'on apporte plus d'importance à la vie personnelle, et donc on a besoin d'une balance pro-perso importante, quoi. Et donc forcément, par exemple, quand un médecin aujourd'hui est généraliste qui part à la retraite, lui, je sais pas, il pouvait faire 70 heures semaine, donc forcément, il travaillait beaucoup plus, il voyait beaucoup plus de patients. Donc au final, pour reprendre sa patientèle à lui, ce médecin généraliste tout seul, bah parfois il faut bien 2-3 médecins généralistes jeunes d'aujourd'hui pour couvrir entre guillemets le volume horaire que lui faisait tout seul, parce qu'aujourd'hui, bah forcément, c'est normal, 35 ans, t'as des enfants, t'as pas envie de travailler 70 heures par semaine pendant toute ta vie, quoi. Donc il y a ça, forcément, que quand un médecin part, parfois il en faut plus pour en remplacer. Donc on a beau former, même si on formait plus de médecins, ça serait pas forcément suffisant. Voilà, il y a de ça.
Ok. On a rigolé un peu tout à l'heure quand je parlais du nouveau sujet des déserts médicaux, mais c'est vraiment pas un nouveau sujet, c'est vraiment... Pour parler de la dimension, les déserts médicaux, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui en France. C'est également un peu beaucoup politisé et qui touche à la dimension également économique du pays. Et moi, donc, pareil, en tant qu'investigatrice, j'ai pris le problème à sa source et je me suis mise à la même question que Léane, qui était, on peut se demander pourquoi il y a peu de médecins en France. Je suis tombée, donc... sur un site de médias, donc c'était Le Parisien, et c'est qui donc nous informe que c'est entre parenthèses la faute des gouvernements qui ont fortement réduit les effectifs des étudiants en première année de médecine dans les années 80-90. Ça, tu l'as dit, c'était les années de nos parents. Jacques Ralit, ministre de la Santé en 81 et 94, abaisse le nombre d'admis à 30%. 10 ans plus tard, son successeur Bruno Durieux fait passer le numerus clausus sous la barre des 4000. Leur boussole, donc pourquoi ils ont fait ça, c'est la raréfaction des médecins entraînera une baisse des demandes de patients. Bon. Et donc, les dépenses de la Sécu seront aussi diminuées. De quoi créer une pénurie durable malgré la suppression du numerus clausus, donc en 2020, il y a quelques années déjà. Qu'est-ce que t'en penses, clairement ?
Je ne vais pas faire de la politique, mais en effet, non. Je pense qu'on peut voir que si on revient sur ces réformes-là, c'est que ce n'était pas forcément les bonnes décisions à prendre. Puis oui, se dire que si on diminue l'offre, il y aura moins de demandes, je pense que ça n'a jamais marché. Hein. Après, oui, j'en ai pas parlé aussi avant, mais je pense que pour une autre solution de comment réduire la demande justement de soins médicaux, c'est aussi de passer par la prévention. Parce que je pense qu'il n'y a pas suffisamment encore de prévention, même si on en parle beaucoup, hein, mais de là à passer à l'action, c'est toujours un peu compliqué. Et comme je disais au tout début, parfois ça peut passer juste par plus d'enseignements sur le fonctionnement du corps humain au collège ou au lycée, que tout le monde soit au courant. Rien que par exemple des trucs tout bêtes, hein, de savoir où se situe quel organe et juste à quoi il sert. Et les principaux gestes... de premiers soins, ou alors reconnaître des trucs vraiment très typiques, par exemple les signes d'un AVC, les signes d'un infarctus, des choses comme ça, qui peuvent, je pense, vraiment aider, qui sont vraiment à la portée de tous. Hein. C'est pas des choses très sorciers. Et donc, il y a ça. Et ensuite, oui, plus de part à la prévention, surtout, par exemple, des facteurs de risque cardiovasculaire. Je pense à l'obésité, à la sédentarité, au tabagisme, à l'alcool, l'alimentation aussi, en général. Et vraiment essayer de d'être dans un objectif pédagogique avec tout le monde, que ce soit les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées, parce que tout le monde est concerné. Et voilà. Donc, si on agit déjà en prévention avant même que le problème arrive et que les gens sont au courant et qu'ils agissent pour justement ne pas que le problème arrive, bah, je pense que c'est vraiment une des seules façons de réduire justement la demande de soins et donc de, entre guillemets, ne pas avoir besoin de beaucoup plus de médecins.
Ok. Là, vraiment, c'était pas la question de faire de la politique. C'était vraiment de résumer le problème à sa source. Maintenant, Léane, tu nous as donné pas mal de solutions. Et j'ai envie de revenir à la vraiment première question, du coup, parce qu'il fait sens maintenant qu'on a un peu décousu toute la problématique. C'est pourquoi les jeunes médecins manquent à l'appel sur le marché ? Et qui, en fait, sous-entend pourquoi on demanderait aux jeunes médecins d'aller sur les déserts médicaux.
Et je pense qu'il y a un manque d'attractivité très important, parce qu'on sait que les études de médecine, c'est long, c'est dur. Il y a énormément d'échecs. Et même quand on est pris, parfois, on se rend compte que soit ça ne nous va pas, soit c'est toujours trop dur, soit les choses comme ça. Après, on a quand même la vie de patient entre les mains derrière, donc bon, c'est normal que ça soit dur. Mais déjà, il y a ça. Après, je sais aussi qu'il y a dans beaucoup de lycées où parfois les professeurs découragent les étudiants de faire médecine. Alors que moi, je pense vraiment que ça peut être pas à la portée de tout le monde, mais qu'on décourage trop déjà. Donc forcément que ça donne pas envie de commencer. Il y a ça. Et ensuite... je sais qu'on parle beaucoup, en tout cas les politiques, de justement trouver des façons d'attirer les jeunes médecins dans les déserts médicaux, et que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi nous, en tant que jeunes médecins à 30 ans, on refuse catégoriquement d'aller s'installer, je ne sais pas, à Dijon, parce que c'est un désert médical et que personne ne veut y aller, alors qu'on nous donne énormément d'avantages. Mais après, il faut savoir que nous, on fait déjà énormément de sacrifices en tant qu'étudiants en médecine, et que quand on se dit qu'on est enfin diplômé à 31 ans, on a envie d'avoir une vie de famille, etc., et qu'on nous dit encore plus après, derrière, « Oui, mais il va falloir que vous alliez vous installer ici, vous n'allez pas choisir », des choses comme ça, pour nous, c'est quand même très compliqué à digérer, quoi. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir un peu d'empathie pour nous. voilà. Et qu'aussi, on parle souvent des jeunes médecins, mais il n'y a pas que nous. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur de faire changer quelqu'un qui a déjà 50 ans, qui est posé. Mais je pense que ça devrait être ouvert à tout le monde et aussi donner l'occasion à des médecins plus âgés d'aller dans des déserts médicaux, puisque parfois, limite, ça leur conviendrait mieux, j'en sais rien. Mais voilà.
Merci beaucoup, Léane.
Un plaisir.
C'était deux sujets vraiment d'actualité que je voulais aborder avec toi. Et on voit, ça a fait résonner du coup beaucoup de questions, beaucoup d'incompréhensions parfois sur la toile. Et on a pu mettre des mots, pourquoi pas des solutions imaginées par une jeune étudiante en médecine. J'espère t'inviter une prochaine fois avec un sujet ou des sujets beaucoup moins politiques sur ce coup-là et beaucoup plus axés sur la médecine, mais ça arrive bientôt. Et merci beaucoup à toi, Léane.
Merci à toi.
J'ai vraiment trouvé ce podcast vraiment intéressant d'aborder de l'actualité au sens propre des choses qui maintenant sont votées au Parlement et que une jeune étudiante puisse intervenir là-dessus. C'est hyper intéressant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
De même, c'était un grand plaisir.
Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi. J'espère que ça a plu à nos auditeurs. Et d'ailleurs, merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez bien prendre 2 minutes pour nous dire ce que vous avez pensé de notre échange, des sujets, ce que vous en pensez également. On adorait, avec Léane, connaître vos avis. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast, car plein d'interviews de jeunes arrivent bientôt.
Je conseille. À plus.